Regard sur le judaïsme. Catherine Mann et Simon Martin. Le nazisme est mort et ne reviendra plus, écrit Alain Finkielkraut dans le chapitre de son livre Un cœur intelligent, chapitre qu'il consacre à la lecture du roman Histoire d'un Allemand de Sébastien Hafner. Cependant, son optimisme chancelle à la phrase suivante. L'encamaradement des hommes, décrite par Sébastien Hafner, la mollesse qui caractérisait les Allemands avant la Seconde Guerre mondiale et la terreur qui régnait alors dans les esprits, sont, selon le philosophe, à notre porte. Et il faudrait être sourd pour ne pas entendre déferler aujourd'hui son grand rire avilissant et fusionnel, conclut-il. L'antisémitisme à travers l'histoire, voilà le sujet du deuxième volet de notre émission. Et ce mois-ci, c'est à l'époque moderne que nous allons nous intéresser en compagnie de Catherine Mann, bibliste, et reliée par son histoire personnelle à la culture juive. Catherine, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Alors malgré la gravité du sujet, Catherine, vous nous avez prévu une petite blague.
Oui, elle est très classique, elle est un peu longue, mais elle vaut la peine. Ça se passe pendant l'Inquisition espagnole, enfin c'est très symbolique. On vient d'arrêter le grand rabbin à Tolède, et ce dernier proclame son innocence, soutenu par la population. Sachant qu'il risque gros, l'inquisiteur lui dit ceci. « Tu te dis innocent, nous allons voir si ton Dieu va t'aider. Je vais prendre deux bouts de papier. Sur l'un, j'écrirai coupable et sur l'autre, innocent. Tu prendras l'un des deux. Si c'est coupable, tu iras au bûcher. Sinon, tu partiras libre. » Mais le grand rabbin, connaissant bien le fonctionnement du tribunal de l'inquisition, se douta que l'inquisiteur écrit deux fois coupable sur les deux petits papiers. Donc, il se savait condamné. Et donc, au moment de prendre un des petits bouts de papier, le rabbin le prend et l'avale immédiatement, avant que personne ne puisse réagir. Alors, l'inquisiteur se met à hurler. « Comment tu as avalé le papier? Comment saurons-nous maintenant ce qui était écrit ?»« Ah, c'est pas difficile, » répond le rabbin. « Il faut regarder l'autre. » Alors, on prend le deuxième bout de papier, on le déplie, et sur l'autre, il est écrit « coupable ». Donc, celui que j'ai avalé, c'était innocent. Et donc, comme ça, le grand rabbin réussit à échapper à l'inquisition.
Une blague pleine d'enseignements et d'une très grande profondeur. Catherine, avant de parler de l'émancipation à la fin du XVIIIe siècle, il faudrait qu'on revienne sur le ghetto, parce que c'est à partir de là que va naître une forme de culture juive dans le ghetto, avec la création du yiddish. En Europe de l'Est, pour faire le lien avec notre précédente émission, les ghettos de Prague, de Venise, de Rome.
Oui, c'est sûr que la culture yiddish elle reste encore vivante aujourd'hui. C'est une espèce de mélange entre l'allemand et l'hébreu. C'est assez spécial, mais c'est vrai que mais qui disparaît quand même. Hein. Bah, actuellement, il y a eu tellement de pogroms, il y a eu tellement de...
Mais ces ghettos ont aussi permis la conservation des traditions. C'était une solidarité dans le ghetto, forcément. De fait.
Oui, mais elle n'est pas spéciale au ghetto, à mon avis. Tous les juifs, les communautés juives sont toujours, elles tiennent par la fidélité aux traditions. Alors, peut-être plus quand on est en ghetto, forcément. Mais le problème du judaïsme, c'est qu'il y a plusieurs formes de communautés et plusieurs formes de traditions.
Alors, à partir de l'époque des Lumières, en France, et outre-Rhin également, hein, une période similaire d'ouverture philosophique, l'homme universaliste et rationaliste, une période placée entre guillemets sous le signe de la tolérance, eh bien le statut des juifs va quelque peu évoluer et les ghettos vont commencer à s'ouvrir, Catherine.
Oh, mais alors là, je ne voudrais pas contredire votre éminent intervention, mais les Lumières n'ont pas du tout entamer l'antisémitisme, hein, parce que fin 18e, on a justement découvert la science et la science qui a inventé le racisme, qui a mis en tête évidemment la race blanche et dans les races, il y avait les inférieurs juifs. À partir de là, l'intelligence lumineuse de quelqu'un comme Voltaire, par exemple, qui sera d'un antisémitisme terrible, je cite, « Nos maîtres et nos ennemis que nous croyons mais que nous détestons, le plus abominable peuple de la terre, dont les lois ne disent pas un mot de la spiritualité et de l'immortalité de l'âme. Donc lui qui n'était pas chrétien, il critiquait le manque de spiritualité juive. Mais le simple fait que l'émancipation intellectuelle se fasse contre la Bible, hein, on rejetait toute la tradition catholique, mais on rejette la Bible, ben, les juifs ont été rejetés avec la Bible aussi, bien sûr.
Et certains esprits comme Montesquieu, quand même, se sont...
Alors, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des gens qui ont défendu. Mais le pire, finalement, c'est la montée des philosophes allemands. Et le milieu, que nos frères protestants ne me veuillent pas, mais le milieu protestant a été un ferment pour la philosophie allemande. Parce que Luther, déjà, était antisémite. Et après ça, il y a eu Goethe qui était raciste, Emmanuel Kant qui disait que c'était une religion qu'il fallait absolument faire mourir, et puis le Fichte, disciple de Kant, qui considérait que le christianisme était perverti par l'héritage hébraïque et qu'il fallait justement opérer à cet égard une sorte de purification. Donc les Lumières, oui, pour beaucoup de choses, mais... Pour l'antisémitisme, non.
Pour l'antisémitisme dans les esprits, oui, mais toutefois, on voit en 1784 Louis XVI qui abolit le péage corporel, qui touchait les Juifs.
Politiquement, on peut dire qu'il y a une ouverture des ghettos. Ouverture et de l'admission à d'autres fonctions que toujours les mêmes autorisées, etc. Effectivement, on peut. Mais le problème de l'antisémitisme, c'est qu'il n'est pas toujours de racine politique. Il reste dans l'inconscient des gens, en bas de l'échelle, si je peux dire. C'est dans le petit.
Et il revient quand il est un petit peu
étouffé. Le moindre problème fait qu'il revient, parce que c'est comme un feu qui couve à la base. Et puis vous pouvez toujours changer les règles. Ça ne change pas forcément les esprits.
Pourtant, des personnalités politiques comme l'abbé Grégoire, juste après la Révolution française, luttaient contre l'antisémitisme et puis prenaient un égalitarisme devant la loi.
Oui, ça c'est sûr. Mais il y a des choses... Jeter l'Église hors de la France, enfin, en gros, il revient le paganisme. Vous voyez ce que je veux dire? On a fait... Et le paganisme aussi... s'est senti responsable, le néopaganisme veut éliminer la morale judéo-chrétienne. On ne veut plus obéir à ces petites règles qui sont contraignantes et on reproche aux Juifs justement d'avoir inventé une loi morale trop contraignante. Donc c'est une forme d'antisémitisme païenne. Et puis un autre élément finalement de libération... C'est la libération, elle est nationaliste.
On le voit avec Napoléon, les guerres napoléoniennes qui ont enrôlé un grand nombre de juifs qui ont servi pour les campagnes. Et qui les mettaient du coup à pied d'égalité avec...
En même temps, après, l'antisémitisme s'est servi, a retourné ça en disant le juif a une mentalité universaliste. Et si on veut protéger nos États... Contre Napoléon, contre ceux qui ont des visions trop universalistes, il faut tuer tous les Juifs, comme toujours, parce que la perte des identités vient du judaïsme, ce qui est complètement faux. Hein, ce sont des ça se passe à l'époque des Lumières, parce qu'on veut retrouver son identité, défendre. Les choses se retournent sans arrêt.
Cependant, c'est à cette époque qu'on voit apparaître les Rothschild, les grands industriels juifs.
Ah, là aussi, c'est une belle cause d'antisémitisme. Hein, si
qui
je
viendra
peux dire.
Dès la première crise, effectivement, on mettra tout sur le dos. Oui.
Déjà, vous voyez bien, les Juifs, ils font qu'aimer l'argent et ils sacrifient les humains pour gagner de l'argent. Et finalement, là, c'est les socialistes qui ont pris le flambeau en disant... Le capitalisme juif, regardez, c'est eux qui possèdent qui tirent toutes les ficelles dans le monde. Et croyez pas que ça soit juste après les Lumières, ça dure jusqu'à aujourd'hui. C'est des arguments de l'extrême gauche, la peur du juif liée au capital, au grand capital. Il n'y a aucun argument qui a jamais pu venir à bout de l'antisémitisme. C'est ça qui est terrible.
Cas particulier en Europe, la Russie, qui, elle, n'a absolument pas bougé sur ses lois antisémites, il va falloir attendre la révolution d'octobre, donc vraiment le XXe siècle pour qu'elle bouge un peu. On voit tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle les numerus clausus pour les universités, l'enrôlement de forces très jeunes, les ghettos et les pogroms.
Ça, c'est...
La Russie, elle n'a pas bougé.
La Russie, elle bouge pas. Et je veux dire, elle bouge pas beaucoup, même après la révolution.
Parce que c'était un vrai espoir pour les juifs.
Oui, mais après, on a dit que c'était les juifs qui avaient fait la révolution et qu'il faut tuer les juifs parce que c'est eux les bolcheviks. Enfin, et le problème est quand même qu'en Occident, l'antisémitisme, du côté européen de l'Ouest, l'antisémitisme a vraiment chuté après la guerre. On s'est rendu compte de l'horreur de la Shoah. Et on a eu l'Église qui faisait quand même pénitence, même le côté protestant, etc. Mais en Russie, l'Église orthodoxe, ils n'ont pas eu le même... En Russie, en Grèce et toute cette partie de l'Europe de l'Est, ils n'ont pas eu la même conscience du tout du massacre juif. Et finalement, ça n'a rien changé dans l'Église orthodoxe. Ils ont toujours l'ancienne vision d'intolérance vis-à-vis des Juifs, et il y a un antisémitisme latent en Grèce, en Russie.
Encore aujourd'hui.
En Pologne,
ouais.
Pour l'heure,
nous y reviendrons, Catherine, à cette deuxième période du XXe siècle. Mais pour l'heure, nous sommes encore au XIXe siècle avec l'apparition véritablement de la notion de race et de racisme.
Il y a quelques
dates. 1873, avec la définition d'une race juive. Et là, on a cette pseudo-science, on a parfois des choses assez fantaisistes qui ressurgiront dans les années 30, bien sûr, au XXe siècle, avec, entre autres, Catherine, un livre qui fait date, en 1886, d'Édouard Drumont, « La France juive », qui est un condensé de tout l'antisémitisme et qui a connu 114 éditions en un an.
Oui, oui.
Le best-seller du siècle.
Mais le problème, c'est que ce sont des fausses sciences et des... Et je crois que de nos jours, on peut mieux comprendre avec les fake news. Comme ça, on peut répandre des bruits et sur des fausses sciences qui se développent comme ça. Et ça a été plus loin avec le protocole des sages de Sion, justement, qui, lui, est toujours réédité aujourd'hui. Mais dans les pays arabes...
Alors, quelques mots sur le protocole des sages de Sion, qui arrive aussi à la fin du 19e, début 20e.
Oui, quelques années après.
C'est en effet un texte qui a été... C'est une falsification, quoi.
Bon, c'est un roman, en fait. Hein. Alors, on peut toujours tout raconter.
Mais qui passait pour vrai. Enfin, qui a voulu se faire passer pour vrai.
Qui veut se faire passer pour vrai en disant qu'effectivement, il y a des réunions des juifs tout-puissants qui ont tout l'argent et qui se réunissent pour conspirer... Pour détruire le monde, dominer, mettre tout le monde en esclavage. Enfin, on peut tout inventer quand l'antisémitisme invente sans arrêt des bonnes raisons de tuer les juifs.
Alors il y a une date qui est quand même incontournable, un événement incontournable dans l'histoire de l'antisémitisme, c'est l'affaire Dreyfus,
oui.
En 1894, oui. Qui quand même divise la France.
Oui, et puis même c'est un socialiste qui a quand même pris sa défense, rien n'est clair dans tout ça et il faut effectivement creuser les motivations, mais la défense, j'accuse, c'est quand même assez courageux quoi, de la part de Zola. Donc,
les lignes ont quand même bougé en Occident, en France,
bouge,
en Allemagne.
Ça bouge régulièrement. Il y a des progrès, mais je ne veux pas paraître trop optimiste. C'est toujours un peu comme Finkielkraut. C'est des moments, ça va mieux, puis des moments, ça va pas. Mais toute l'histoire juive nous a montré ça. Depuis Rome, l'Antiquité, etc., il y a des moments où ça va. Puis tout d'un coup, la vindicte populaire se réveille. On ne sait pas pourquoi. Soi-disant, ils ont répandu un poison. On invente un truc, mais ça marche. Et tout le monde se met à massacrer, et on ne sait pas pourquoi. Puis après, ça se calme. C'est très irrationnel, l'antisémitisme.
Et c'est irrationnel, d'autant plus que c'est basé sur des faits qui sont complètement irrationnels, évidemment. Quoi. Nous l'avons vu dans notre précédente émission, meurtre des chrétiens dans la forêt, enfin
des
faits irrationnels. Nous sommes au début du XXe siècle, Catherine, la Première Guerre mondiale voit une union sacrée. Les Juifs participent évidemment à la Première Guerre mondiale, aussi bien en France qu'en Allemagne, mais évidemment, dès la fin de la guerre, du côté allemand... la défaite est mise sur le dos des Juifs.
Il faut bien trouver le coupable. C'est d'ailleurs, le curieux, c'est que depuis l'origine du judaïsme, c'est-à-dire même depuis Moïse, enfin, c'est, on dirait que c'est le travail du peuple élu, c'est d'être bouc émissaire. Pourquoi ? J'en sais rien. Mais quand une autre nation se sent en danger, elle va projeter sur ça. Parce qu'ils sont, encore une fois, différents. La religion est bizarre, les comportements sont différents. Un seul Dieu, bah, ça faisait scandale. Mais ça fait toujours scandale, parce que j'entends souvent des arguments, justement, de néopaganisme moderne, où des jeunes, jetant dehors le judéo-christianisme, veulent mettre de nouveau du polythéisme. Parce que le polythéisme, ça, c'est moderne, et ça donne de la liberté, chacun choisit son Dieu, et tu pries comme tu veux. Donc le néopaganisme et retour au polythéisme, forcément, ça fait des Juifs un ennemi de taille. Hein.
Et on a l'impression, à travers les siècles, que les Juifs se défendent assez peu. Ça s'explique pendant les périodes de pogrom ou de ghetto, où effectivement, ils n'ont accès à rien, donc ils ne peuvent pas se défendre.
Hein, sauf à Varsovie, quelques-uns ont essayé.
Oui, voilà.
Pour l'honneur.
Pour l'honneur. Mais au début, à la fin avec l'émancipation, disons, il y a une intelligentsia juive qui se met en
mais
place.
Mais même ça, ça leur est reproché d'ailleurs. C'est leur reproché. Mais,
alors, je voulais parler du sionisme et de gens comme Herzl qui vont prendre le taureau par les cornes et dire « Ok, nous allons faire quelque chose, on va partir, on va créer notre propre
État ». Ils commencent à rêver, à effectivement, d'un statut d'État sioniste, enfin juif.
Comme étant l'unique solution, finalement,
pour survivre. Ils cherchent une solution pour être moins persécutés. Mais résultat, déjà à cette époque-là, 1920 et des petites prunes, les premiers qui essayent de migrer en Israël, ils se font déjà massacrer par le monde arabe, hein. Avant l'État d'Israël, il y a eu tout de suite un rejet de ces tentatives sionistes, mais ça n'a pas été assez pris au sérieux, à mon avis. Mais...
Et malgré la déclaration Balfour, en 1917, il me semble, le sionisme est plutôt mal pris en Occident. Les sionistes, ils sont...
Oui, même les Anglais n'ont jamais voulu. Ça s'est imposé par l'usure, par la force et par la nécessité... Encore une fois,
alors c'est quelque chose
la
que nous
mauvaise
verrons...
conscience d'après-guerre a été pour beaucoup dans l'acceptation, puis dans la construction.
C'est quelque chose que nous verrons dans notre prochaine émission, mais au sein des Juifs, il y a aussi deux courants,
aussi
ceux qui s'assimilent, veulent s'assimiler et puis perdre leur judéité, et ceux au contraire qui sont donc sionistes et qui revendiquent leur judéité.
Et même
veulent,
plus, il y a des gens...
Et les orthodoxes aussi,
orthodoxes
qui sont contre
en Israël, qui sont là-bas, mais contre la modernité de l'État d'Israël. Ils sont contre un État qui a une armée, qui se comporte comme les autres peuples, qui veulent rester comme dans le ghetto de Varsovie, mais en Israël, et surtout sans identité nationale. Et ils se combattent entre eux, entre juifs.
Nous l'avons dit, la révolution russe a été une vraie source d'espoir pour les juifs. Malheureusement, en Allemagne, en France, ils sont tout de suite traités de bolcheviques. Et ça va être une raison de plus, comme nous l'avons vu, pour motiver...
Tout est bon. De toute façon, ça se retourne. Quoi que tu fasses, ça se retourne.
Dans les années 30, avec la montée des tensions, les crises économiques, les scandales financiers, où certains juifs, c'est vrai, sont compromis, on pense à l'affaire Stavisky.
Mais oui.
C'est encore une raison supplémentaire de...
Il suffit qu'il y ait un juif qui soit un peu tordu pour que ça devienne tous les juifs.
Alors, en France, par contre, en 1936, il se passe quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Léon Blum, Jean Zay, Georges Mandel arrivent au gouvernement en France.
Oui, et alors...
Ce sont des juifs.
Mais ça ne change pas... Oui. Ça ne change pas très bien.
On part de loin.
Oui, on part de loin.
On part de loin. Mais ceci dit...
À partir du moment où ils ont le droit de faire n'importe quelle profession, c'est évident qu'ils vont prendre
bien
toutes
les
possibilités.
Mais ceci dit, Léon Blum, on sait comment il terminera. Et Jean Zay, quelques années plus tard, il sera
ils
déporté.
Ils seront assassinés,
Jean Zay sera déporté. Voilà. Ça crée encore des tensions en France même.
Oui. Oui, ben, de toute façon, mais dans n'importe quoi, dès qu'un juif arrive à un certain niveau de compétence, que ce soit politique, artistique, scientifique, etc., on le lui reproche.
Catherine, on arrive dans les années 30, 40, avec bien sûr la montée du nazisme, les doctrines nazies, l'arrivée d'Adolf Hitler, l'écriture de Mein Kampf.
Oui, et justement, qui va puiser beaucoup dans les protocoles des sages de Sion et dans toutes les limites.
Des justifications pseudo-scientifiques, théories fantaisistes.
C'est invraisemblable qu'on puisse Mais,
des théories concernant l'hérédité, qui sont totalement absurdes.
Oui, il y a aucune. Les gènes juifs, on peut toujours les chercher. Il y a encore des chercheurs aujourd'hui qui travaillent à essayer de prouver qu'il y a un gène juif. Il y en a pas. Hein, donc, mais c'est problème aussi au sein du judaïsme parce que c'est perturbant pour l'identité de juifs. Certains pensaient qu'ils étaient juifs par nature et puis du coup, la science, il va falloir trouver autre chose. Il va falloir trouver juifs par foi ou religion, mais par nature, ça marche pas, en tout cas.
Ils sont nombreux, les intellectuels, les écrivains, les philosophes, à avoir voulu tenter d'expliquer ce qui s'était passé en Allemagne avec la Shoah. Ça reste quand même... les faits sont là, mais je veux dire, la justification de ça, comment un peuple entier a pu être engagé dans un tel chaos, ça reste quelque chose d'incroyable encore aujourd'hui.
Mais l'Église protestante avait fait aussi un mea culpa en disant, en reconnaissant que certaines idées avaient imprégné la population d'antisémitisme et que on se sent vertueux tout d'un coup en disant mais on doit protéger le christianisme de l'influence juive et il faut éliminer les juifs et c'est cette purification ethnique et le salut du monde et on peut facilement embrigader toute une population. C'est exactement ce qui se passe avec le monde arabe actuellement. Ils croient sincèrement travailler pour le bien de l'humanité en éliminant les juifs. À partir du moment où vous êtes endoctriné à penser que les juifs ont tous les torts, qu'ils se sont ils sont responsables des problèmes financiers, de la crise économique, de tout, quoi qu'il se passe, c'est la faute aux juifs, mais vous pouvez facilement lever des armées avec ça, hein, puisque les détruire, ça permettra de sauver le monde. Tout le monde a envie de sauver le monde, hein.
Effectivement, très rares sont les pays à s'être opposés aux lois anti-juives. Le Danemark, avec le roi du Danemark qui avait lui-même porté l'étoile jaune. Mais c'est vraiment une exception.
Parce qu'il fait froid là-haut, ils sont pas rapides à s'emballer.
La Shoah, c'est aussi des chiffres, Catherine, qu'on peut rapidement évoquer. 6 millions de juifs, le tiers des juifs du monde.
Oui, c'est ça, en gros.
En France...
Mais c'est plutôt proportionnel.
4 sur 5.
4 sur 5 en France. En Belgique, 45% de la communauté juive. Aux Pays-Bas, 80% de la communauté juive. Anne Frank, on voit bien ce que ça donne. Et en Pologne, la communauté juive avant-guerre était de 4 millions et elle passe après-guerre à 20 000. Donc proportionnellement, je ne sais même pas en pourcentage, mais enfin, on voit bien la densité de la volonté d'élimination.
Alors la Shoah n'a pas touché que les juifs, hein, évidemment, mais
non,
là, c'est notre propos. Hein. À la fin de la guerre, ça devient une situation... ubuesque, absurde pour les juifs qui se retrouvent ballottés d'un pays à l'autre.
On n'en veut nulle part.
Plus personne n'en veut.
Ah ben non, c'est la patate chaude, comme on dit. Alors c'est pour ça qu'il y a eu cette idée, ben peut-être qu'effectivement la seule chose à faire, c'est de retourner en Israël, mais bon. C'est vrai que c'est terrible de penser l'histoire du comment il s'appelle, le bateau,
l'Exodus. Le symbole de cette dérive.
Ils prennent le bateau, ils vont en Israël, ils n'arrivent pas, enfin on les renvoie parce que...
Ils arrivent en Israël, mais ils sont renvoyés par les Anglais.
Oui, mais c'est Israël toujours avec les Anglais, donc les Anglais les renvoient et ils arrivent dans un port du Nord, je ne sais plus lequel. C'est le drame, quoi, de se rejeter des gens dont personne ne veut. Et je pense que l'Occident a fini par craquer en disant « Oui, il faut résoudre la question, puisque nous, on n'en veut pas, autant qu'on les mette chez les Palestiniens, et on va mettre quelques Palestiniens à la porte, comme ça, ça fera de la place. » Mais c'est l'Occident qui a décidé ça, hein, c'est pas les Juifs. Hein. Donc les Juifs, c'est une situation d'extrême urgence, parce que chassés de partout.
Donc même après la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme continue.
Bah oui.
Des pogroms en Pologne, juste après la Seconde Guerre mondiale, des juifs des survivants au camp de concentration terminent dans des pogroms en 45, en Hongrie en 46, et en URSS aussi, hein, où
Staline,
la situation n'est pas meilleure.
Et ben alors, ce qui est amusant, c'est que Staline a eu l'idée de créer un État pour les juifs. Et c'était pas une mauvaise idée. Sauf que c'était en Sibérie. Et il donnait même une région autonome avec la langue officielle, le yiddish. Hein. Il était très généreux. Cet État existe encore, hein, le Birobidjan, là, il y a encore... Les Juifs, il y en a encore là-bas, 1% de la population. Mais l'idée était bonne, mais l'endroit était méchant, parce que c'est pas du tout leur...
Dans tout le bloc communiste, de toutes les manières, dans cette seconde partie du XXe siècle, la situation des Juifs est très difficile. Et beaucoup vont donc émigrer en Israël.
Oui, mais il y a eu un moment où on ne pouvait pas émigrer. Hein. La Russie avait bloqué les portes. Et il y a une blague juive qui dit d'ailleurs que le jour où on a ouvert les portes, il ne fallait pas être derrière la porte, hein, parce qu'on était écrasés. Tellement ils sont partis à toute vitesse. C'était vraiment une délivrance. Parce que tout est bon, parce que en Russie, on a eu l'effet qu'on avait déjà eu. Dans la Bible, on le voit avec Pharaon. Il ne voulait pas laisser partir les Juifs. Pourquoi ? Ben c'est de la main-d'œuvre. C'est de la main-d'œuvre exploitée, torturée. Et tu ne vas pas les laisser partir alors que tu peux les exploiter. Et effectivement, petit à petit, les choses vont mieux, etc. Le problème, c'est qu'on a l'impression que ça va mieux. Puis vous voyez aujourd'hui à quel point le problème se réveille.
C'est ce que je voulais vous dire, Catherine. Aujourd'hui, l'antisémitisme refait parler de lui-même en France. Dans les pays arabes, évidemment, on en entend.
Mais en France, à cause des pays arabes.
À cause des pays arabes, mais en France,
Mais même dans l'Église, excusez-moi, j'espère que je ne choque personne, mais dans l'Église, vous avez des gens de très bonne volonté qui défendent les chrétiens arabes. Et qui, au nom de ces chrétiens arabes, sont capables d'une violence antisémite, mais incroyable, tout à fait irrationnelle et pas objective du tout. Où j'ai entendu dans le milieu chrétien dire « mais maintenant les Juifs, ils sont pires que les nazis ». Je l'ai entendu. C'est difficile à entendre parce qu'on oublie que c'est une petite population de 11 millions de personnes, et encore, je ne suis pas sûr qu'ils soient tous en Israël. C'est dans le monde, il faudrait vérifier les chiffres, mais et entouré de millions et de millions et de millions et de millions d'Arabes partout qui tous ont décidé la destruction d'Israël. Et après, on leur reproche d'être un peuple militarisé. Je sais pas, je voudrais vous y voir, vous, hein, d'être avec des canons... braqué sur vous à longueur de journée, on vous dit il est interdit de vous défendre. C'est pas évident. Hein.
En conclusion, Catherine, de cette série d'émissions sur l'antisémitisme, on est bien obligé de reconnaître qu'aujourd'hui, les théories du complot fleurissent contre les Juifs. Enfin, ça reste à moins de lutter contre la sottise et les superstitions et ces choses-là. On voit mal, finalement...
Oui, puis les intérêts politiques font qu'on réédite les protocoles des sages de Sion pour les distribuer dans les pays arabes. Donc, eux, ils y croient, tout ça.
Catherine, notre émission touche à sa fin. Quelques livres que nous allons vous citer pour terminer. Moi, j'ai parlé d'Anna Finkielkraut, Un cœur intelligent, qui est un livre très intelligent. Et puis, je voulais mettre une petite note d'espoir, parce que ça existe. C'est le livre d'Alberto Toscano, Un vélo contre la barbarie nazie, l'incroyable destin du champion Gino Bartali, qui était cycliste et qui a été décerné juste parmi les justes par le peuple juif pour avoir sauvé plusieurs centaines de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il fallait quand même le citer.
Ah oui,
il y en a eu, heureusement. Hein.
Eh bien oui, on n'a pas dit tout ce qu'il fallait dire, mais il faut bien arrêter un moment.
Il faut arrêter. Vous aviez des livres à nous...
Juste pour les auditeurs, quand même, redire que dans le monde chrétien, une religieuse s'est faite quand même l'intermédiaire entre les juifs et les chrétiens. Il s'agit de Sœur Dominique de la Maisonneuve, professeure d'hébreu et de culture juive. Et que son livre, Le judaïsme tout simplement, est quand même un bon outil de réflexion pour les chrétiens, aux éditions de l'Atelier.
Merci beaucoup Catherine, et au mois prochain.
Au revoir, à bientôt.